Il est 9h24 minutes. Eh bien, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, est une bibitte étrange dans le milieu de la politique. Le terme bibitte, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est lui. Il a dit lui-même qu'il était une drôle de bibitte. Il le reconnaît lui-même parce qu'il fait pas les affaires comme l'ensemble des politiciens ou ce qu'on est habitué. Monsieur Fitzgibbon est très, très transparent. Quand on lui pose une question, moi, je le côtoie souvent à l'Assemblée nationale, et quand on a des questions à lui poser, il s'arrête puis il nous répond. Et donc, ça fait un peu changement de ce qu'on connaît généralement des politiciens réguliers. Pierre Fitzgibbon est avec nous. Bonjour, Monsieur Fitzgibbon.
Bonjour, M. Lacroix.
Vous n'avez pas été insulté là quand j'ai dit que vous étiez une drôle de bébite dans le milieu de la politique?
Pas en tout, ça me fait sourire, en fait.
Pourquoi?
Vous décrivez ce que je suis.
Oui, c'est ça. Hein? Pourquoi, au juste, ce terme-là, vous avez utilisé le mot bébite? Parce que vous vous rendez compte vous-même que vous tranchez un peu, là.
Oui, c'est ça. Mais je pense, honnêtement, je pense que c'est la force d'un gouvernement, c'est d'avoir différentes personnes, autant au niveau générationnel. Je regarde mes jeunes collègues, là, Simon Jolin, Geneviève, qui sont des belles politiciens dans l'âme, ils aiment ça. Moi, je suis en fin de carrière, je suis venu faire un travail. M. Legault m'a convaincu que je pouvais aider au développement économique du Québec. Alors moi, je trouve ça intéressant que quelqu'un comme moi, avec mon expérience, puisse venir travailler avec ces gens-là, très différents. La politique, pour moi, c'est nouveau. Hein. Si on m'avait dit, il y a 10 ans, que je serais un jour ministre de l'économie, je serais parti à rire. Alors, tu sais, c'est arrivé comme ça, les circonstances étaient favorables. Alors moi, je me trouve très différent des autres, mais en même temps, je pense que c'est une bonne complémentarité. Puis, autant au niveau de la génération, le sexe, et ainsi de suite. Je pense pas qu'on est vraiment intéressant, puis on a une couple comme moi, là, puis je pense qu'on amène des bonnes choses en même temps. Bien, quand on parle d'enjeux plus politiques, il faut faire attention. Puis je laisse mes collègues qui sont meilleurs que moi là-dedans donner leurs recommandations.
Mais vous n'aviez pas besoin de la politique dans votre vie, là, M. Fitzgibbon. Là. On dit que vous êtes indépendant de fortune, vous avez une carrière bien remplie, vous avez été sur des conseils d'administration de grandes compagnies, à la Banque nationale comme chef de la direction financière, etc. Vous avez gagné pas mal plus d'argent dans votre vie en faisant autre chose que de la politique. C'est pas votre salaire de 150 000 qui va vous mettre riche, là, qui va assurer vos vieux jours. Alors pourquoi, à un moment donné, on dit « j'abandonne tout ça » Je peux faire bien plus d'argent en restant dans le privé, puis je m'en vais en politique.
Écoutez, je pense qu'on est tous, chacun d'entre nous, on veut tous redonner. À un moment donné, vous avez raison, j'étais privilégié, j'ai eu des bons emplois, j'étais chanceux une partie de ma vie aussi. Puis aujourd'hui, je me ramasse dans une situation où, bon, en fait un peu plus, en fait un peu moins, ça ne fait pas de grosse différence. Puis honnêtement, le ralliement que j'ai eu de M. Legault, moi, M. Legault, je le connais bien, on étudiait ensemble, on n'était pas des amis proches, mais on s'est côtoyés. Puis j'ai regardé M. Legault, puis j'ai dit, lui, il fait sacrifice aussi, il s'en va là, puis il veut changer les choses au Québec. Fait qu'à un moment donné, moi, je voulais l'aider, je le connaissais, j'avais organisé des rencontres avec des CEO de Montréal pour pouvoir aider M. Legault. Je trouvais que c'était important qu'on change l'approche au gouvernement. Alors, puis, à un moment donné, il m'a dit, écoute, arrête donc de me conseiller en arrière, arrête donc de m'aider en avant.
Ah oui, hein?
Ouais, OK. au début, c'était pas évident. Parce que d'être évidence, il y a des choses que je fais bien, d'autres que je fais moins bien, mais en même temps, vous avez raison, c'est pas financier, évidemment, mais c'est un défi, honnêtement, c'est un défi. C'est pas mal le meilleur défi que j'ai eu de ma carrière, d'autant plus, évidemment, dans le COVID, là, on fait deux mandats en un, là. Mais c'était très valorisant de penser qu'on peut avoir une influence sur, dans mon cas, évidemment, la pertinence de mon expérience et développement économique, que je suis à l'aise là-dedans, à l'international, je me sens très, 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 très à l'aise. Alors, tu sais, on était dans une position qui est difficile parce qu'évidemment, on doit faire face aux médias à juste titre. D'ailleurs, je pense qu'on est redevable dans la population via les médias. C'est un rôle très important. Alors, c'est pas facile de dealer avec ça.
Ouais.
Mais en même temps, c'est valorisant. Quand tu dis, écoute, moi, je peux façonner un peu comment le Québec va se développer, puis dans 10-15 ans, on verra les ça prend du temps pour évaluer les gestes. Mais je regarde. Moi, j'ai eu la chance d'avoir comme professeur Jacques Parizeau.
Ah oui.
Hein? À l'université. Puis là, tu sais, je fais toujours des farces, mais là, on arrivait dans la salle. On l'écoutait parler pendant 3 heures, pendant pas de notes. C'est un homme qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé, impressionné. Bon, loin de moi de penser que je vais être M. Parizeau. Mais tu sais, on est en vie, on dit, on veut laisser quelque chose. Je m'amuse m'amuse beaucoup. Ça me stimule beaucoup.
OK. Mais pour un homme d'affaires comme vous, là, qui en avait vu d'autres, puis qui avait travaillé vraiment dans des grandes compagnies, des postes importants, est-ce que ce défi-là est plus difficile, et plus stimulant que ce que vous faisiez dans le privé?
C'est différent. Écoutez, au début, comme tout le monde, j'étais très frustré parce que, tu sais, taré d'une patente, puis la prise de décision est complètement, mais complètement différente de ce qu'on voit dans le privé. Au début, quand je suis arrivé là, je me dis, waouh, ça va être tough, parce que les considérations, les gens impliqués, les ministères, on a parlé beaucoup du M3S, durant la crise de la pandémie, mais c'est vrai dans tous les ministères, hein, c'est pas juste le M3S. Et ça, aujourd'hui, je l'accepte un peu plus, parce que, veux pas, la décision que je pourrais prendre, de toute façon, quand je dis je, là, c'est avec le Conseil des ministres, là, parce que le côté politique, le politique qui prend des décisions qui influencent la population, ça peut avoir un effet sur des générations. Alors, il faut faire attention. Alors, tout le mécanisme de mise en garde, le mécanisme, le processus décisionnel, je pense qu'il est justifié. C'est dur, par contre. Je pense qu'il est justifié, juste pour conclure ça, il est justifié parce qu'on a des choses qui ont un impact sur la population complète pour des générations à venir. Alors, moi, j'accepte le fait qu'il faut donner des comptes, pour un homme d'affaires, une femme d'affaires qui s'en va dans cet environnement-là, c'est très difficile. Je vous dirais qu'à l'âge où j'ai aujourd'hui, je l'accepte, parce que moi, je suis en fin de carrière. Mais si j'avais 40 ans, 45 ans, je pense pas que je serais heureux dans cette position-là.
Ah oui.
Ben, je serais pas heureux, mais j'aurais la difficulté.
Ben, c'est parce que les priorités changent dans la vie, là. À un moment donné,
Aussi. Ouais. Mais tu sais, j'accepte. Je travaille sur des gros dossiers présentement. Justement, au moment où on se parle, j'ai préparé ce soir. Puis là, je sais que ça va être plus compliqué. Il faut convaincre les collègues, les côtés politiques. Mais je l'accepte, ça. Parce que les projets dans lesquels je travaille, là, c'est beaucoup d'argent. C'est l'impact sur tout le développement économique des créneaux. Alors, j'accepte le fait que, moi, je peux se lever un matin, là, puis aussi bon que je peux être, là, on n'est jamais assez bon aujourd'hui pour pouvoir tout considérer. Alors, je l'accepte beaucoup plus que quand j'avais 40 ans.
Bon, vous avez déjà dit que la politique était une drogue dure et que vous êtes en train de devenir accro jusqu'à un certain point. Vous aimez ça. On sent que vous aimez ça quand même, ce que vous faites.
Oui. J'aime beaucoup. Puis le premier ministre, j'ai un bon rapport avec lui. Je pense qu'il me fait confiance. On a des gens économiques. J'ai mon collègue Éric Girard, le ministre des Finances, qui est extraordinaire. On a tout un paquet d'autres collègues aussi avec qui je travaille. Monsieur Dubé, maintenant, qui est rendu en santé. Je vais le voir un peu moins souvent. Alors, on devient excité par ça, là, parce qu'on a l'impression qu'on est capable de faire des choses. Alors, je trouve ça très, 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 très motivant.
Est-ce que vous auriez accepté un autre défi, par exemple? Si M. Legault vous avait appelé et vous avez dit, M. Fitzgibbon, on va vous envoyer, mettons, à la santé ou à l'éducation, ou avec le background que vous avez, avec votre curriculum vitae qui est très, très, très économique, là, axé sur l'économie, le développement économique, est-ce que vous auriez accepté un autre défi?
La réponse est oui, je l'ai accepté. D'ailleurs, j'avais affaire parce que tu sais, vous savez que très bien, quand j'ai dit oui, je vais aller travailler avec toi dans la campagne électorale, bon, il n'y a jamais de promesse. Hein, il m'a pas promis le ministère de l'économie. Ça se fait pas. Mais j'avais dit, écoute, moi, je veux un défi, par contre, je suis venu ici pour. J'ai un défi, puis écoute, tu trouveras le plus intéressant. C'est sûr qu'on avait discuté beaucoup, lui et moi, sur le côté économique, parce que je ne voulais pas aller en politique pour réaliser. On gagne l'élection parce qu'en mars, on n'a pas les mêmes vues de lui et moi. Alors, c'est sûr qu'il fallait s'asseoir. On a passé plusieurs heures au mois de juillet 2018 pour s'assurer qu'on avait la même compréhension. Puis, était à 99%, on pensait pareil tous les deux. Donc, je m'attendais à avoir un rôle économique, mais honnêtement, il m'a donné un autre rôle. J'aurais accepté parce qu'à un moment donné, c'est un nouvel environnement. On est là, comme j'ai dit tantôt, pour contribuer. Je me répète, me contribuer. Alors, j'aurais pu contribuer ailleurs, mais c'est sûr que je suis probablement plus pertinent en économie que je serais peut-être en santé ou en éducation.
Ouais. Mais on dit souvent en politique que souvent le contre-emploi peut aussi donner des résultats intéressants. Tu sais, ben, M. Dubé à la santé, tu sais, c'est pas un médecin, là.
Non, mais vous avez raison. D'ailleurs, c'est un très bon exemple que vous donnez là, parce qu'effectivement, je pense que M. Legault l'a dit, il doit avoir un gestionnaire. Christian a été un gestionnaire d'entreprise. Alors, on rentre à la santé. C'est sûr que le côté clinique, ça va être plus difficile, mais il y a quand même Lionel qui est avec lui, puis il y a quand même des fonctionnaires qui sont compétents aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un ministre, là.
Il n'est pas tout seul.
On met beaucoup d'importance où on dit que le ministre le décide tout, le ministre, c'est pas grand-chose. On est venu pour coordonner. C'est correct, on dit pour coordonner. Puis moi, je me rappelle quand j'étais une institution financière que je n'aimerais pas, mon client était le gouvernement. Puis c'est un peu le paradoxe ce que je vais dire là, mais quand je revenais au bureau, j'étais content parce qu'il y avait des hauts fonctionnaires qualifiés. Puis je me disais, au moins ces gens-là vont s'assurer qu'il y a une continuité, parce qu'un ministre, ça part puis ça arrive. Hein. Ça part puis ça s'est remplacé.
Ouais.
Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense un peu différemment, mais d'un autre côté, je pense que le système fonctionne. Et c'est sûr qu'il faut, M. Legault a raison, moi aussi, de PL61, où faut alléger. D'ailleurs, moi, je suis le président de l'allègement réglementaire, un poste qu'on m'a dit que j'avais. Là. Alors, c'est un poste super important, parce qu'il faut alléger, il faut rendre ça plus simple. En même temps, il faut faire attention. J'ai dit tantôt, on gère des choses qui influencent 8,3 millions de personnes. On va pas faire des conneries de telle manière. Oups, on se commence après un an. Hey, on a fait une erreur. Comment ça marche pas de même? Là.
C'est trop dangereux. Est-ce que la politique c'est c'est très accaparant, mais est-ce que ça laisse un peu d'espace pour, des activités? Est-ce que vous êtes capable de vous changer les idées à un moment donné? Parce que d'être toujours dans ces dossiers puis d'être confronté à des décisions importantes, on comprend depuis 3 mois, là, j'imagine que vos horaires ont été particulièrement comblés, là. Mais est-ce que ça vous laisse suffisamment de temps pour faire autre chose? Et si oui, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie à part de la politique?
Non, c'est une très bonne question. Mais je pense que ça, c'est l'avantage d'être plus vieux. Parce que moi, je connais mon corps très, très bien. Puis quand mon corps me dit, puis durant la pandémie, c'est arrivé, quand le corps dit arrêtons, là.
Ouais.
Alors non, c'est ça, je suis capable de tout faire ça. Moi, dans ma carrière d'entrepreneur, en entreprise, je n'ai jamais pas pris toutes mes vacances. Et au gouvernement, mes choses, je m'en vais à la pêche, je pars demain soir, je m'en vais à la pêche, 4-5 jours, il y a des gros dossiers, c'est pas grave, je pars pareil, parce que je délègue bien. Alors ça c'est très important. Parce
bien
que
ça, la politique, c'est ça, de savoir s'entourer, en fait.
Non, mais la politique, là, c'est le tuyau d'arrosoir dans la bouche, là. Tu peux l'ouvrir le quand tu gagnes l'élection, puis tu le refermes 4 ans après. Là, tu peux boire dans l'arrosoir pendant 24-7, pendant 4 ans, puis tu n'as rien accompli. C'est une base personnelle. Donc, je suis un gars qui est relativement c'est sportif. Là, je ne considère pas un athlète.
Oui, vous avez joué au football, vous, hein? Vous étiez avec la carrure que vous avez.
J'ai été une espèce de personne qui a fait vraiment tous les sports sans être excellent dans aucun. Mais aujourd'hui, je peux être aussi à l'aise de skier Whistler que de monter montagne en raquette, faire du vélo, faire beaucoup de vélo, jouer au golf. Alors, non, j'ai beaucoup d'activités, puis je pense que j'ai capable de garder un équilibre, parce que c'est ça la clé. Hein, parce que si on perd l'équilibre, la seule affaire que j'ai pas aimé durant le COVID, j'ai pas pris le COVID, mais j'ai pris trop de livres, mais ça, on va régler ça plus tard. mais autre que ça, ma santé mentale, je suis quand même pas. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui souvent. Je suis absent parce que je participe à des activités, puis c'est correct, parce que tu reviens le lendemain, puis t'es plus énergisé, puis tu peux plus performer. Parce qu'on le réalise pas souvent, hein. Travailler.
Oui.
J'ai beaucoup d'énergie, là. Je pense que j'ai pas de problème de ce côté-là, mais quand même, à un moment donné, quand ton corps te dit que t'en as moins, là, puis tu continues, tu deviens inefficace, tout ça.
Oui. Bon, on dit que vous êtes un grand voyageur. Mais là, avec la COVID, ça doit être tranquille d'un voyage.
Ouais. D'ailleurs, ça me tente beaucoup. D'ailleurs, moi, au mois de mars, je retourne en Californie parce que j'ai des gros dossiers en Californie.
Ouais.
Là, j'essaie de m'en tirer à la santé publique. On peut-tu faire une exception? Hein? Non, le ministre de l'économie, tu restes groundé au Québec. Oui, effectivement, j'ai été privilégié dans ma vie parce que professionnel, j'ai travaillé dans plusieurs continents. J'ai travaillé en Afrique, j'ai travaillé partout. Alors, j'ai toujours été une personne qui a voulu combiner ses voyages d'affaires, voyages personnels. J'ai eu la chance de faire dans tous 100 pays. Puis, honnêtement, comme ministre de l'économie, ce qui me motive beaucoup, c'est faire des tournées internationales.
Oui.
C'est aller au Japon, par exemple, en Chine, en Corée, au mois de décembre, prospecter des investisseurs qu'on a besoin ici. Alors, effectivement, j'aime beaucoup voyager. Une question de curiosité, je pense, hein. C'est pas question d'aventure, quoi. J'ai fait des voyages assez aventuriers, mais c'est une question, je suis une personne curieuse. J'aime beaucoup lire parce que c'est ce qui se passe. Puis je pense que c'est important aussi, parce que le Québec, bon, on n'est pas une île, là. Puis, aussi nationaliste qu'on peut l'être, je suis moi aussi, hein. Le panier bleu, tu sais, accusé d'être très introverti au Québec. On va être capable de marcher de la gomme puis de marcher en même temps. Alors, moi, je suis très nationaliste. Panier bleu, je crois beaucoup, pour ce Québécois, mais en même temps, il faut rester un peuple libre-échangiste.
Hein? Oui.
On est dépendant de l'extérieur, on ne va pas se fermer sur nous autres.
Je voudrais terminer avec l'aéronautique, parce qu'il y a une des négociations que vous avez particulièrement aimées, ça a été la négociation avec Airbus, là, au sujet de la C-Series, qui est maintenant appelée le Airbus, le A220. On dit que ça vous a stimulé, ça, que c'est vraiment, c'était au tout début de votre mandat, première des choses. Et ça, vous avez aimé faire cette négociation-là, n'est-ce pas?
Oui, ben écoutez, c'est ça. Je suis quelqu'un qui est quand même assez transactionnel. Ma carrière a été pas mal ça. J'aime les projets tangibles. Puis, écoute, l'aéronautique pour le Québec, l'aérospatial, c'est tellement important. Hein. Vous avez vu ce matin la lettre de M. Charest? Là.
Ben, j'allais vous en parler, justement.
Oui, non, écoutez, moi, M. Charest, moi, on pense de la même façon. Là. Je pense que quand on parle d'impact pour le Québec, si je regarde l'aéronautique, puis là, je vais parler de côté spatial aussi, là, parce que...
L'aérospatial,
on s'en va là aussi. Là. Je pense qu'au Québec, on a une chance unique au monde, avec nos gens comme M. Bengio, nos talents universitaires. Alors moi, je vais mettre beaucoup, beaucoup d'emphase. On a des projets North Star. Bon, il y a eu le fameux projet Flying Wave. Moi, c'est pas l'espace, ça, c'est l'espace. mais les projets de même, là,
oui.
On a besoin de ça parce que ça va nous donner notre fierté. Puis Bombardier, là, on parlait pas de ça, là, mais je sais que tout le monde, la population est allée. Je comprends très, très bien, mais il faut regarder l'impact que Bombardier a eu sur le Québec en aéronautique. Et c'est majeur. Il faut faire attention. Quand on gère l'argent du gouvernement, il faut être très prudent. Le deal d'Airbus, oui, c'est un bon deal, parce que moi, je pense que, étant donné qu'on ne pouvait pas compétitionner contre les États-Unis et l'Europe, ben, il fallait avoir un de ces gros-là. C'était Boeing ou c'était Airbus. Bon, Airbus était fait. Bon, je ne parlais pas de deal qui était fait par les libéraux. Là. Je ne suis pas un historien, je ne suis pas un futuriste, mais je me dis, on a quelque chose ici, donc, construisons quelque chose, je pense, qu'on a construit quelque chose qui va nous rapporter beaucoup là, au niveau de l'emploi dans les prochaines années. C'est quand même un avion qui est extraordinaire.
Mais ce que dit Jean Charest, l'ancien premier ministre, dans sa lettre ouverte ce matin, c'est que lui, il reproche au gouvernement fédéral, entre autres, de ne pas suffisamment investir pour protéger l'industrie aéronautique au Canada, comme le font, par exemple, d'autres pays. La France a annoncé des investissements, c'est 26 milliards de dollars pour soutenir son industrie. Les États-Unis ont mis quelque chose comme 50 milliards. Hong Kong, 5,2 milliards. 9,8 milliards en Allemagne, puis nous autres, on fait rien. Alors, est-ce que vous trouvez effectivement qu'on n'est pas suffisamment proactif?
Absolument. Puis je pense que je veux dire, est-ce que le Canada et le Québec et l'Ontario, en fait, il y a beaucoup d'aéronautique en Ontario, est-ce qu'on aurait pu dire lors du C-Series, là, retournons un peu en arrière avec Bombardier, est-ce qu'on aurait pu dire on va faire de Bombardier un concurrent à Boeing et à Airbus parce que Bombardier a créé un avion qui est révolutionnaire, entre guillemets, de sa catégorie? Moi, je pense que oui, mais ça, on aurait dû faire ça il y a plusieurs années, puis ça aurait pris des milliards.
Ouais.
Ça n'a pas été fait. Bon, on réécrira pas l'histoire, mais moi, je pense qu'on aurait pu avoir une chance. Aujourd'hui, on regarde les avions, là, puis il faut être fier de nos ingénieurs québécois. T'sais, les avions, moi, dans l'ordre, là, je vois le fameux Dreamliner de Boeing 787, qui est un très bon avion. Après, leur 220, là, dans sa catégorie, dans les Airbus, c'est dans les tops. Après ça, on a le Global, qui est l'avion Bombardier et jet d'affaires, qui est dans les tops. Puis le Mitsubishi, qui fait son MH-100, MH-200. Bon, là, ils sont partis du Québec, mais on va venir un jour, c'est sûr. On parle de trois des quatre avions qui sont patentés ici au Québec. On a quelque chose ici d'extraordinaire. La question, qu'est-ce qu'on fait? Bon, oublions le passé, venez où ce qu'on est. M. Charest, ce qu'il évoque, c'est de dire pourquoi on n'a pas des projets structurants au Canada. Parlons du Canada. Mais moi, je pense que ce soit des drones, ce soit des flying whales, on peut rire un peu de ça, mais quand même, c'est une innovation. Alors, pourquoi le Québec et le Canada, on est structuré pour mettre des milliards, pour bâtir pour être compétiteur de d'autres pays dans des créneaux spécifiques? Alors, moi, je pense qu'il faut faire ça, parce que sinon, on va être des assembleurs, sinon, on va recevoir des commandes. Nos PME du Québec sont très performantes, en passant, mais elles font partie des chaînes d'approvisionnement internationales. Est-ce qu'il est possible qu'on puisse développer des produits ici? Il faut être réaliste. On n'a pas les moyens des Américains, c'est clair.
Mais le Canada, mais à notre mesure, en fait.
Exact. Exactement. Ouais. Moi, je favorise ça. Puis si, moi, je l'ai dit, nous allons devoir faire au Québec quelque chose comme ça. Bon, on ne mettra pas 25 milliards, c'est sûr, dans l'aéronautique, mais il faut faire quelque chose. Moi, je veux faire un niveau spatial, au niveau de l'espace. Il y a des projets qui s'en viennent. Puis si le fédéral peut nous aider, puis M. Baines, j'ai parlé à plusieurs reprises, puis il est ouvert à ça. Il faut juste trouver une façon. Là, on va donner un fameux contrat des avions de chasse. Là. Bon, fort probablement, là, c'est clair, ça sera fait au Canada. Là. Puis c'est correct. Mais là, peut-être qu'on peut s'arranger pour que les milliards envoyés là-bas, là, qu'il en vienne une coupe, là, pour qu'on bâtisse de quoi ici. Je pense que c'est ça qui est le point, M. Charest.
M. Fitzgibbon, merci d'avoir été avec nous. Ça a été très agréable.
Au revoir. Merci, M. Lacroix.
Au revoir. Pierre Fitzgibbon est ministre de l'Économie et de l'Innovation. Espérons que ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur ce ministre qui fait pas les affaires comme les autres. Ça, il faut lui donner ça. Il est vraiment différent. 9h presque 43 minutes. On vous revient tout de suite après avec la ligne ouverte. On va parler, entre autres, de la PCU. Est-ce qu'on devrait arrêter ça? Il semble que ce soit pas productif.